Bien, bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer en remerciant Sophie Allard, Brice Roncin et Christian Rouvière de m'avoir invité à ouvrir les sessions de séminaire du RTMFM. C'est vraiment très très gentil de leur part. Et quand ils m'ont proposé le thème de l'histoire de la microscopie, j'ai accepté avec enthousiasme parce que c'est un domaine auquel ceux qui me connaissent un peu savent que je m'intéresse tout particulièrement. Je vais donc vous parler d'histoire, mais aussi je vais vous parler de petites histoires autour du développement, de l'invention et du développement de la microscopie. Ce sera, comme vous verrez, un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors pour débuter, quelle est la partie la plus importante du microscope? Évidemment, vous le savez tous, c'est l'objectif. Et l'objectif est fait de lentilles. Excusez-moi de cette mauvaise blague. Je vais donc débuter mon exposé par la découverte des lentilles. Et c'est très très ancien, cela nous amène directement à l'Antiquité. Donc plusieurs millénaires en arrière, 4600 ans, 4e et 5e dynastie égyptienne. Les Égyptiens, les artisans égyptiens, fabriquaient des lentilles en cristal de roche déjà à cette époque, pour orner les statues. Vous voyez ici un œil, une lentille sur l'œil d'une statue. Et ici, cette statue est également équipée de deux lentilles. On dit que lorsqu'on passe devant l'une de ces statues, leur regard vous suit. C'est assez étrange. En Chine, il y a soit 4000 ans, soit il y a 4000 ans, soit il y a 2000 ans, les textes ne sont pas clairs là-dessus. En tout cas, moi, mes informations n'ont pas été très claires sur ce point. En tout cas, selon ces textes anciens chinois, les Chinois étaient capables de regarder des spécimens grossis au travers d'une lentille au bout d'un tube, placée au bout d'un tube et remplie d'eau. Et en faisant varier le niveau de l'eau, le grossissement de ce tube variait également. Et c'est appelé le microscope à eau. Enfin, on a découvert en Irak, il y a 2800 ans, la fameuse lentille de Nimrod, donc d'origine assyrienne bien sûr, en quartz poli, dont on ne connaît pas l'usage, soit décoratif, soit quelque chose pour grossir, ou comme on va le voir dans un instant peut-être, pour mettre le feu. On saute plusieurs millénaires et nous voici à la Grèce antique et à l'époque romaine. Effectivement, les lentilles, je viens de le mentionner, sont déjà connues pour focaliser les rayons du soleil. Et il y a 2500 ans, Aristophane, dans l'une de ses comédies, Les Nuées, met en scène son personnage principal, Strepsiade, qui utilise le soleil focalisé par une lentille pour faire fondre la cire sur laquelle un scribe est en train de d'écrire une amende dont il aurait écopé. Et il se targue ainsi d'avoir pu échapper à cette amende. Alors plus sérieusement, 300 ans avant Jésus-Christ, c'est Euclide, le grand mathématicien, qui décrit le grossissement des objets par une sphère emplie d'eau et qui définit ainsi les bases de la courbure des rayons lumineux. Alors voilà, là, on va sauter quand même quelques siècles et on va arriver au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, dès l'an 1000, les moines utilisaient des loupes appelées pierres à lire pour améliorer la vision des textes qu'ils recopiaient. À cette même époque, un grand savant du monde arabo-musulman, Alhazen Ben Alhazen, Ibn al-Haytham, basé initialement en Irak puis ensuite en Égypte, a élaboré les bases mathématiques de l'optique en utilisant des approches expérimentales, il est considéré comme l'un des pères de l'optique. Et un peu plus tard, Roger Bacon, en Angleterre, fait à peu près le même travail, notamment en ce qui concerne les verres correcteurs. Alors au même moment également, les lunettes apparaissent, sans que l'on puisse dire avec certitude qui en est l'inventeur? Est-ce Salvino d'Armati, Alessandro Spina ou Roger Bacon lui-même? En tout cas, les textes sont flous et évidemment chacun revendique la paternité de cette invention. Donc on arrive maintenant dans le vif du sujet, qui a vraiment inventé le microscope? Ben, la réponse est simple, on ne sait pas. Effectivement, dans les livres et sur Internet, vous trouverez ce qui suit. Tout le monde dit que c'est Zacharias Janssen, un Hollandais de Middelbourg, ou son père, Hans. Alors, les Janssen, Zacharias Janssen, était un fabricant de lentilles et de verres de lunettes. Il aurait ainsi fabriqué une petite lunette comme celle-ci, ça c'est une copie, en imbriquant deux tubes en métal l'un dans l'autre, chacun de ces tubes étant équipé d'une lentille à chaque extrémité. Alors le grossissement était très très médiocre, 5 à 10 fois. Mais ont-ils réellement fabriqué un microscope? C'est en tout cas ce que soutient vigoureusement Johann, le fils de Zacharias, en 1655. Mais c'est curieux parce que c'est quand même 65 ans après l'invention de ce microscope, et que 1590, ce n'est que 2 ans après la naissance de Zacharias Janssen. Donc on voit mal Zacharias inventer le microscope à 2 ans, à moins que son père ne l'ait fait. Toujours est-il que Zacharias Janssen est également connu pour être un faussaire qui fabriquait de la fausse monnaie, qui a été arrêté plusieurs fois pour cela. Donc peut-être c'est le grand-père, Hans, qui en serait l'inventeur. Ce qui est un peu étrange, du coup, de l'avoir annoncé si tardivement. Donc, on ne sait pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les Janssen ont fabriqué un télescope dont on a retrouvé la trace, qui a été vendue en 1608 à la foire de Francfort. Mais alors peut-être ce ne serait pas les Janssen, peut-être ce serait un de leurs contemporains et un Allemand, Hans Lipperet, et qui vivait également à Middelbourg, qui était également fabricant de lentilles, et qui lui dit avoir inventé un microscope de ce type. Donc on n'est absolument pas certain de qui a inventé le microscope. En tout cas, Zacharias Janssen, c'est pas du tout sûr, malgré tout ce qu'on trouve, comme je l'ai dit, dans les manuels ou sur Internet. Alors certains penchent pour Galilée, notre grand astronome italien. Effectivement, en 1609, il a perfectionné le télescope astronomique, et puis en même temps, ou très peu de temps après, en 1610, il a développé un tout petit télescope, ce qu'il a appelé un occhiolino, ce qui veut dire clin d'œil, pour l'observation des toutes petites choses. Il l'a même amélioré en y mettant trois lentilles, après une démonstration à Rome d'un physicien hollandais appelé Cornelius Drebbel. Cependant, nous n'avons aucune trace de travaux qu'il aurait pu réaliser avec ce microscope. Alors, à ce point, il est intéressant de signaler que c'est son ami, Giovanni Faber, un médecin et botaniste au Vatican, qui en 1625 a inventé, on va dire, le terme de microscope, de micron, qui veut dire petit, bien sûr, et de scopein, qui veut dire regarder, observer. Voilà. Alors on en vient à des choses beaucoup plus certaines et surtout sérieuses. C'est 60 ans plus tard, un autre Hollandais est le découvreur, l'inventeur des micro-organismes. Alors, il s'appelle, évidemment, vous le savez, Anthony van Leeuwenhoek, à Delft, donc en Hollande, et il est marchand et fabricant de draps, commerçant drapier. Il fabrique des tissus et utilise des instruments d'optique pour les examiner, tels que les compte-fils, mais c'est également un observeur absolument acharné de la nature. Et en 1673, il invente un microscope équipé d'une seule lentille et qui peut grossir de 70 à 250 fois avec une résolution de 1,5 micron. On voit ici Anthony van Leeuwenhoek en train de faire une observation dans un tableau évidemment beaucoup plus ancien. Alors voici son microscope, ici à gauche. Vous voyez ici la lentille entre deux plaques de métal. On va voir comment c'est fabriqué dans un petit moment. Et puis ici, ce que vous voyez ici, la pointe qui est réglable en hauteur et en distance par rapport à la lentille, eh bien c'est le porte-objet. Je vous lance ce petit film qui vous montre cet engin. On le sépare en deux. Voici ici la lentille qui va être coincée entre les deux plaques de métal, et ici le porte-objet qui monte, qui se règle également en focalité. Et si on met une goutte d'eau puisée dans une mare et qu'on met ça tout près de l'œil, ben on voit les choses suivantes. On voit des êtres unicellulaires, des micro-organismes comme les paramécies, où on va voir ici une hydre d'eau douce. Encore une ici, des rotifères. Enfin, tout un tas d'animalcules, comme il les appelle, vivant dans l'eau, et même les bactéries qu'il a pu repérer. Du phytoplancton, ici à nouveau des paramécies, des vers plats ou des parasites. Des algues, son propre sang, à nouveau je pense que c'est du phytoplancton. Voilà. Et en fait, Anthony van Leeuwenhoek a gardé soigneusement secret la méthode de fabrication de ces lentilles. Bon, certains pensent actuellement qu'il suffisait d'une petite tige de verre que l'on chauffe à la flamme pour créer ces petites sphères de verre qui pourraient former sa lentille. Il suffit de casser après ici et puis de polir. Il savait très bien polir le verre pour avoir la fameuse lentille de Van Leeuwenhoek. Bon, pour l'instant, ce point-là n'est pas tranché. Alors, quelles sont les réalisations scientifiques de Anthony Van Leeuwenhoek? Eh bien, elles sont très très nombreuses parce que ce monsieur s'amusait à observer et à dessiner à peu près tout ce qui lui tombe sous la main. Les cheveux, les ongles, les yeux, du sang, les tissus, beaucoup d'organes, puis aussi, bien entendu, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'eau dans les mares. Il trouve, comme je l'ai dit, les bactéries, il trouve aussi les spermatozoïdes. Et quelque part, quand on fait la somme de tout ce qu'il a observé, je pense qu'il a anticipé le concept de cellule en tant que structure de base du vivant, ce qui sera connu, évidemment, que beaucoup, beaucoup d'années plus tard. Donc il consigne ses observations dans énormément de lettres qu'il envoie à l'Académie royale de Londres, principalement à Robert Hooke. Et en une cinquantaine d'années, on compte jusqu'à 375 lettres qu'il a publiées. Et bien que non scientifique, à 48 ans, il est élu à la Royal Society de Londres et presque 20 ans plus tard à l'Académie des sciences de Paris. Alors voici quelques dessins de Van Leeuwenhoek. Ici, c'est du sperme de lapin et de chien. Alors je ne sais pas lequel est lequel. Ici, c'est du sperme de coq et puis un insecte. Peut-être une petite sauterelle, je ne sais pas exactement ce que c'est comme insecte, qui est collé ici ou pointé sur son porte-objet. Alors on change maintenant de personnage, mais on passe à un autre qui pourrait être aussi le deuxième inventeur du microscope. C'est l'inventeur en tout cas de la cellule, et donc c'est très important, c'est le nom de quelqu'un qu'il faut absolument retenir, c'est Robert Hooke. Robert Hooke. Qui est évidemment un Anglais, comme beaucoup de savants de cette époque, il touche à énormément de disciplines, comme vous pouvez le lire ici sur les bords de ce tableau. Il pouvait être naturaliste, astronome, mais aussi évidemment microscopiste, géologue, météorologiste ou physicien. En tant que physicien, par exemple, il a défini la loi de Hooke sur l'élasticité des corps en utilisant le ressort comme modèle, vous l'avez ici. Donc c'est l'un des membres fondateurs de la Royal Society quand même. Il peut être considéré comme certainement l'une des plus grandes figures expérimentales de la science expérimentale du XVIIe siècle et un personnage clé de la révolution scientifique qui débute à cette époque. Alors curieusement, pour la petite histoire, il n'existe pas de portrait authentifié de Hooke, d'où cette peinture récente de Rita Greer, qui date de 2012, est basée sur la description de Hooke par ses contemporains. Alors, je viens de dire ça, mais en même temps, en faisant mes recherches, tout récemment, 2019, un professeur américain a retrouvé ce tableau qui s'intitule Portrait d'un mathématicien et qui a été peint à l'époque par Mary Beale, donc 1680. Mais ce portrait correspond en tout point à la description de Hooke telle qu'elle a pu être faite par ses contemporains et par ses pairs. Donc c'est peut-être lui. Hooke utilise un microscope composé, un peu comme celui de Galilée, mais il l'a amélioré et il grossit jusqu'à 50 fois. Alors il est muni d'un éclairage avec une lampe à huile ici, et puis un condenseur, qui est probablement une sphère de verre remplie d'eau, qui va focaliser les rayons de la lumière d'éclairage sur le porte-objet. Et puis ici un objectif, l'oculaire, et à l'intérieur un certain nombre de lentilles. Alors maintenant, avant de poursuivre sur les œuvres de Robert Hooke, je voudrais dire deux mots sur les querelles entre Hooke et Newton, parce qu'en fait, ces deux grands personnages sont contemporains, ils ont vécu exactement à la même époque, et tous les deux étaient évidemment également des physiciens. Mais alors, ils ne s'aimaient pas. Mais alors, ils ne s'aimaient pas du tout, mais pas du tout. Comme quoi, les inimitiés et les jalousies entre scientifiques ne datent pas d'hier. Alors, au moins deux exemples. Premier exemple. Hooke est l'auteur d'une des premières théories ondulatoires de la lumière. Ce qui lui vaut cette première confrontation avec Isaac Newton, parce que Hooke a mis en échec les conclusions de Newton et sa théorie corpusculaire de la lumière. Donc Newton a été très 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 mécontent. Et le deuxième point, c'est en mécanique céleste, Hooke formule le principe de la gravitation, figurez-vous, dans un écrit en 1674 et dans un écrit de 1678. Il écrit ce que Newton a également écrit plus tard. Mon hypothèse est que l'attraction est toujours en proportion inverse du carré de la distance entre les centres des planètes. Donc ça, c'est quand même 9 ans avant que Newton publie la même chose dans les Principia. Et d'ailleurs, ça en attribue entièrement le mérite. D'où querelle entre Hooke et Newton, et ce dernier supprimera d'ailleurs toute référence à Hooke dans ses écrits. Alors revenons à la production scientifique de Hooke en biologie. Ben, tout est contenu, tout ce qui concerne la microscopie et la biologie est contenu dans ce livre qui s'appelle Micrographia. Au passage, je mentionne que dans ce livre, il fait grand cas des observations de von Leeuwenhoek. Et il confirme d'ailleurs ses découvertes sur les micro-organismes auprès de la Royal Society. Donc je vais vous montrer et vous le laisser admirer quelques dessins de Hooke. Ici une puce. Regardez les détails et la finesse de l'observation. Ici un pouls. Et puis, ce qui est un dessin qui est très connu, c'est cette coupe de Liège. Et quand Hooke l'a examiné attentivement au microscope, il s'est rendu compte de l'agencement régulier des petites logettes qui forment la trame de ce tissu. Et ces petites logettes lui ont rappelé les cellula, c'est-à-dire les cellules des moines, les endroits, les pièces, les petites pièces dans lesquelles les moines logent. Et c'est pour cela que, donc c'est curieux, ces petites pores juxtaposées qui me rappelle les cellules des moines, je vais donc les appeler des cellules. Et c'est ainsi que le terme cellule a été, si je puis dire, inventé. Mais il faudra encore beaucoup de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Antoni von Leeuwenhoek, pratiquement jusqu'au milieu du 19e siècle, avec Jacob Schleiden et puis Théodore Schwann, et même jusqu'au début du 20e siècle, avec Ramón y Cajal, en ce qui concerne les cellules nerveuses, pour que la théorie cellulaire en tant que telle soit définitivement admise. Alors nous arrivons assez vite maintenant au 19e siècle, le siècle de la révolution industrielle. Et ici les améliorations successives apportées à l'ergonomie, on va dire maintenant à l'ergonomie du microscope. Et donc ce siècle permet effectivement des améliorations constantes du microscope qui permettent d'obtenir des images de mieux en mieux définies et de plus en plus claires. Mais cette industrialisation permettra aussi tout d'abord une standardisation des systèmes, ce qui est un paramètre important pour pouvoir comparer les observations d'un microscope à l'autre. également une production en masse, d'où, bien entendu, un coût moins élevé, ce qui fait que le microscope devient un outil désormais accessible à tous les scientifiques et par conséquent stimule les découvertes. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'amélioration du microscope. Par exemple, en 1830, Joseph Pfister, un Anglais naturaliste amateur, perfectionne les objectifs et surtout corrige les aberrations sphériques et chromatiques. En 1853, John Riddle, médecin et botaniste américain, met au point le microscope à vision binoculaire en utilisant un prisme, bien entendu, comme on le fait encore maintenant, pour regarder avec les deux yeux au travers d'un seul objectif. Et je ne peux pas, dans ce domaine de l'amélioration du microscope au XIXe siècle, ne pas citer Carl Zeiss. Carl Zeiss, c'est le premier à fabriquer des optiques d'une clarté absolument extraordinaire en utilisant un verre minéral de très très haute qualité. En 1846, il fonde la société Carl Zeiss à Iéna, qui devient ainsi la Mecque des lentilles, des objectifs et des microscopes. Alors une petite anecdote au passage. On raconte, mais je ne sais pas si c'est vrai, que Carl Zeiss, qui était plutôt autoritaire, exigeait de ses futurs clients un projet scientifique de qualité avant de leur vendre, ou pas vendre, un de ses chers microscopes. Et puis Carl Zeiss a eu la chance immense de recruter en 1865 Ernst Abbe. Ernst Abbe, c'est un physicien qui devient d'ailleurs le directeur de la recherche chez Zeiss l'année suivante. Il n'a que 26 ans. Et ses réalisations sont nombreuses. Il établit les principes optiques des objectifs de microscope, notamment la fameuse loi d'Abbe que tout le monde connaît, que vous avez ici à droite en rouge, et qui permet de calculer la résolution d'un objectif. Il invente aussi l'objectif apochromatique et puis l'objectif à immersion, ainsi que le condenseur qui porte son nom. Et puis je souhaite également mentionner Auguste Keuler, qui développe l'éclairage dit de Keuler en 1893. Là, il n'est pas encore chez Zeiss. Il rejoint Carl Zeiss 7 ans plus tard. Et là, il développe aussi un microscope à éclairage ultraviolet, donc l'ancêtre de notre microscope à fluorescence. Et puis, il joue un rôle clé dans la mise au point des systèmes parfocaux, entre autres choses. Voilà, on arrive maintenant au 20e et 21e siècle, comme vous le savez, période de progrès considérable en microscopie. Nous ne sommes donc plus dans l'histoire, aussi je ne vais pas détailler tout ce que vous savez déjà aussi bien que moi, puis surtout ce serait trop long de faire la liste de toutes les inventions, depuis la microscopie confocale, biphotonique, les capteurs CCD, CMOS, toutes les techniques de fluorescence et associées à la fluorescence, etc., etc. En plus, je risque d'en oublier. Donc ce siècle, 20e siècle et 21e siècle, ben c'est l'objectif, c'est le cas de le dire, c'est toujours de dépasser les limites, de voir plus clair, de voir plus fin, de voir plus profond, de voir plus vite. Bon, c'est comme ça que ça marche maintenant. Alors, j'ai choisi d'illustrer ces progrès en vous présentant simplement les 4 prix Nobel qui, peu ou prou, ont couronné au fil du temps les progrès de la microscopie dans ce domaine. Alors, tout d'abord, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Richard Zsigmondy, un Autrichien, prix Nobel de chimie en 1925. Alors, je cite le comité Nobel pour sa démonstration de la nature hétérogène des colloïdes en solution et son invention de l'ultramicroscope. C'était l'ancêtre du SPIM, ce microscope, et on approchait ici de la visualisation de la molécule unique. Et puis, un deuxième, Fritz Zernike, peut-être vous le connaissez un petit peu mieux, hollandais, prix Nobel de physique en 1953. Je cite à nouveau, pour son invention de la méthode et du microscope de contraste de phase. En fait, les cellules étant transparentes de base sous un microscope, il les a rendues visibles. Il permet de voir l'invisible. Et puis, beaucoup plus récemment, Martin Chalfy, Martin, Chalfie d'ailleurs, Osamu Shimomura et Roger Tien, prix Nobel de chimie en 2008, pour leur découverte, comme vous le savez, développement et utilisation de la GFP, Green Fluorescent Protein, identifiée à partir de la méduse que vous avez ici, Equora Victoria, ce qui a été une véritable révolution en biologie. Encore plus proche de nous, Eric Betzig, Stefan Hell et William Lerner, qui se partagent le prix Nobel de chimie en 2014 pour leur invention, utilisation, mise au point et utilisation de la microscopie de fluorescence à super résolution, donc le nanoscope. Pour la première fois, on voit en dessous de la barrière physique de résolution calculée par Ernst Abbe. Alors, à propos de résolution, comme je sais que parmi vous, il doit y avoir des spécialistes en microscopie électronique, et pour ne pas faire de jaloux, j'ai quand même aussi, bien que ce ne soit pas de la microscopie optique, inclus et ajouté Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Henderson, prix Nobel de chimie en 2017, pour leur mise au point en cryomicroscopie électronique de la détermination de la structure à haute résolution des biomolécules en solution. Encore une autre révolution, celle-ci de la biologie structurale. Voilà, ben j'ai terminé. Mais on peut se poser évidemment la question, quel est le futur? On a parlé de l'histoire, du passé, quel est le futur du microscope optique? Alors ça, c'est rigolo parce qu'avec mon ami et collègue Marc Moreau, nous nous sommes évidemment souvent posé cette question et nous avons abouti à un constat absolument évident. Bon, si on réfléchit bien, ce qui limite le microscope, c'est l'objectif. Bah, donc la réponse, c'est le futur, c'est la microscopie sans objectif. Qui, comme vous le constatez dans cette publication récente dans la revue Physics Today, commence d'ailleurs à être mise au point. Voilà, merci beaucoup de votre attention.